Voilà, Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous dit ceci au verset 38 et 47. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, dans cette deuxième partie de cette série « Veux-tu être son disciple ?», nous voyons la notion de l'Église. Nous avons vu être être membre du peuple de Dieu. Et là, nous allons voir, c'est vivre dans le corps. Vous voyez, nous sommes membres du corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, eh bien, nous voyons là, une des images importante de l'Église, pour expliquer l'Église, eh bien, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez, l'Église de Dieu est un corps, et la nature même d'un corps est d'être uni. On n'imagine pas qu'un corps puisse vivre en étant démembré. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et je vous invite à prendre aussi, à lire le format papier, vous avez toutes les références avec, je dirais, donc les références et le texte. Donc, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ceci nécessite un engagement personnel. Ceux qui acceptèrent sa parole, dans Actes 2, verset 41, furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez ? Au verset 47, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, quelles sont ces relations mutuelles dans le corps de Christ dans l'Église. Pour beaucoup de chrétiens, être membre de l'Église consiste avant tout à assister à des réunions. L'assistance aux réunions est importante, certes, mais ce n'est qu'un aspect du partage en profondeur dont on parle dans le mot communion. Nous ne pouvons pas être des chrétiens de réunion seulement. Celles-ci doivent être l'expression de notre relation avec Dieu et avec les frères. Vous voyez, moi de plus en plus, j'aime pas le mot réunion, je préfère le mot rencontre. Vous voyez, nous sommes l'Église et nous venons dans un bâtiment pour nous rassembler en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, pour rencontrer Dieu et pour rencontrer nos frères et sœurs. Vous voyez, cette notion de rencontre parle de communion et parle de relation. Vous voyez, donc ce n'est pas une suite de réunions qui sont souvent ennuyeuses, où on est dans la passivité, mais lorsque nous sommes rassemblés, eh bien, c'est pour avoir une communion avec Dieu, une communion les uns avec les autres, pour avoir une rencontre avec Dieu. Vous voyez, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous devons donc chercher à être les serviteurs les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 13, voyez. Alors comment? Eh bien, Jacques 2, 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour. On peut, voyez, pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs en toute discrétion, voyez. 1 Pierre chapitre 4 verset 9, exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. Vous voyez, on peut aider les besoins, vous voyez, les besoins, par exemple, quelqu'un qui vient en bus, en métro, qui passe une heure dans, si vous habitez à côté de chez lui, vous pouvez le prendre, vous voyez, et aussi exercer l'hospitalité. Vous pouvez aussi visiter les malades. J'étais malade, Matthieu chapitre 25, verset 36. Et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Voyez, visitez les uns les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Par exemple, au travers de, voyez, maintenant Internet, au travers, on peut s'exhorter mutuellement à faire des groupes WhatsApp. On peut, je dirais, se téléphoner, s'encourager. Tout cela fait partie, voyez, de l'édification, de l'exhortation, de l'édification. Être membres les uns des autres, cela implique un engagement total les uns envers les autres. Vous voyez, une œuvre de la chair, c'est la notion, vous voyez, de l'esprit de parti. Attention de ne pas saluer ceux qui vous saluent ou d'aller saluer simplement ceux que vous connaissez. Il y a des personnes nouvelles que Dieu va envoyer, aller vers elles, voyez, saluez-les. Il est très important de pouvoir, je dirais, de pouvoir les accueillir. Accueillez-vous les uns les autres comme vous avez été accueillis en Christ. Voyez, cet esprit de parti, c'est une œuvre de la chair. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va aller saluer d'autres frères et sœurs qui n'ont jamais été salués ou accueillir des personnes nouvelles. Donc ne soyez pas charnels, mais soyez spirituels. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Voyez, nous devons avoir une loyauté sans faille à l'égard de nos frères et sœurs dans la communauté. Moi, j'ai réalisé que nous avons énormément de mal à dire la vérité dans l'amour. Jacques chapitre 4 verset 11 évoque un domaine particulier destructeur. Ne médisez pas les uns des autres. Vous voyez, ne critiquez pas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent à une grâce à ceux qui l'entendent. Lorsque vous vous rassemblez, vous écoutez quelqu'un au téléphone, vous vous rassemblez avec quelqu'un qui est plein de jugement, de critique, de médisance les uns sur les autres, eh bien, je vous encourage à couper cette relation en disant, frère, sœur, voilà, nous sommes là pour prier, pour nous édifier et non pas pour critiquer. Vous voyez, ce sont les ragots, les médisances, les critiques, tout cela, eh bien, c'est destructeur. Que devons-nous faire si un frère a quelque chose contre toi? Si tu présentes ton frère, ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voyez, Matthieu chapitre 5 verset 23. Voilà, si un frère a quelque chose contre toi ou une sœur a quelque chose contre toi, va la voir avant d'apporter, voyez, ton offrande, ou je dirais de prendre la sainte. Si un frère nous a fait du tort, Matthieu chapitre 18, verset 21-22, alors Pierre s'approcha de Jésus, lui dit, Seigneur, combien pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Vous voyez, donc l'important de libérer la grâce, de libérer le pardon, vous voyez, le pardon, je rappelle, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et nous devons être dans un climat de bénédiction et laisser le jugement à Dieu, vous voyez. À quoi nous faut-il prendre garde lorsque nous manifestons notre intérêt les uns pour les autres? Vous voyez, 1 Timothée 4, 13, « Avec cela étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. » Elle ajoute à l'oisiveté, la passivité, le bavardage et l'intrigue, la critique, en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Vous voyez que chaque personne, vous voyez, j'ai appris aussi, s'occupe de ses propres affaires. Vous voyez, nous devons à tout prix fuir le commérage et la médisance. Et avant de parler à une troisième personne de ce qui concerne quelqu'un d'autre, demandons-nous si cela va les aider et en quoi cela va les édifier. Vous voyez ? Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul, voyez, non pas en parlant à une autre personne. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins, voyez. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, voyez, une attitude d'édification, d'encouragement, d'exhortation. Nous pouvons être une réelle bénédiction pour les autres si nous partageons avec eux ce que le Seigneur nous a donné, voyez, les expériences que nous avons faites, la reconnaissance avec Dieu, voyez, d'abord sur le plan pratique, puis sur le plan spirituel, individuellement ou aussi dans nos rencontres, voyez. Ensuite, il y a le fait d'être ensemble. Acte 2, 44. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Alors, bien sûr, Dieu ne va pas vous demander de vendre eh bien, votre appartement, votre maison, vous voyez, de tout, je dirais, dépenser. Mais ce que, l'accent, parce que sa première église était dans, vous voyez, dans le feu du réveil, dans la première réalité, vous voyez, de la Pentecôte. Et ce que nous devons retenir, c'est cet esprit de partage, de sacrifice, de don, de soi, vous voyez. Même aussi dans, du côté eh bien, matériel, vous voyez. Il y a les cultes, les rencontres publiques, mais il y a aussi les sorties, voyez, les repas en commun, les travaux, le jardinage, déménagement, vous voyez. Il n'y a pas simplement des rencontres publiques, mais vous voyez, nous sommes de corps de Christ aussi en dehors de la semaine. Nous pouvons nous regrouper par deux ou trois pour prier. Nous pouvons nous regrouper aussi pour aller eh bien, visiter d'autres personnes, faire du sport ensemble, manger ensemble, vous voyez, nous exhorter ensemble. Vous voyez, le Seigneur a pourvu à ce que la vie de l'Église puisse s'exprimer à différents niveaux. Ils étaient tous ensemble et pas simplement le jour du culte, hein. Vous voyez, nous devons chercher toutes les occasions d'être ensemble. Alors bien sûr, il y a des affinités différentes, il y a aussi peut-être différentes cultures, il y a différents âges. Mais sachez une chose, c'est que c'est l'important d'être ensemble. Vous voyez, là où deux ou trois, l'Église commence, là où deux ou trois sont assemblés dans le nom de Jésus, Jésus eh bien, est au milieu d'eux. L'Église commence là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus. Les rassemblements de toute la communauté doivent être des moments merveilleux d'adoration, de louange. Dans la présence du Seigneur, ils sont l'occasion de manifester l'unité du corps de Christ. Vous voyez, nous rassemblons ensemble le jour des cultes et nous répandons dans nos quartiers, voyez, dans la ville. Nous avons besoin d'exprimer notre communion fraternelle dans des groupes plus restreints. Le but des groupes de maisons, et nous croyons dans cette église, dans la réalité des groupes de maisons que nous appelons des maisonnées. Voyez, le grand rassemblement, c'est la maison du Père où nous venons ensemble, célébrer Dieu ensemble, partager le pain et le vin. Voyez, nous réjouir ensemble, pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Mais il y a aussi des groupes de maisons, des maisonnées dans des différents quartiers, pour que nous puissions vivre la réalité de la communion fraternelle, vous voyez, dans un partage beaucoup plus loin, dans un soutien, dans une étude de la parole de Dieu, vous voyez. Ce sont aussi, vous voyez, ces groupes de maisons qui se réunissent en semaine et de nous aider à mettre la parole de Dieu en pratique, à mieux nous connaître, à nous encourager, à subvenir aux besoins les uns des autres. Ce sont aussi des avant-poches du royaume de Dieu dans le quartier, une unité de combat dans la prière et l'évangélisation de leur voisinage. Les anciens délèguent dans chaque groupe, on peut avoir eu un responsable, une équipe de responsables pour veiller et en prendre soin, voyez. Il existe aussi d'autres types de rencontres au niveau des enfants, des jeunes, des sœurs, de la prière, de la formation, de l'évangélisation. Voyez, la Bible nous exhorte dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions ou nos assemblées ou nos rencontres. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez ce jour se rapprocher, le jour du Seigneur. Et je vous invite à réaliser que nous sommes dans des temps tellement périlleux où il y a, je dirais, toutes sortes. Il y a une accélération des événements, voyez, de manière planétaire. Et c'est pourquoi dans ces événements, ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre ou pour, je dirais, abandonner la foi ou pour s'attiédir et se refroidir. Mais au sein de la communauté des croyants, nous allons retrouver, voyez, cet amour, nous allons être édifiés, vivifiés. Donc le repas du Seigneur, lorsque la communauté célèbre le culte du Seigneur, elle se rassemble autour du Père comme une famille unie et elle exprime en particulier sa foi en partageant le pain et le vin, voyez, le repas du Seigneur ou la Sainte Cène ou le Saint Repas. Ça signifie, eh bien, et vous lisez, je vous invite à lire le 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33, voyez, car voici ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, pris du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, eh bien, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir pris le repas, donc parce que la Sainte-Cène, le pain et le vin étaient pris lors d'un repas, d'une agape, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Car chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Voyez, donc la Sainte-Cène, c'est un souvenir. Ce pain représente le corps de Christ. Ce vin représente le sang de Christ. Jésus a institué ce repas dans la nuit où il fut livré. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. En prenant ce repas, nous rappelons sous une forme visible ce que Jésus a fait pour nous, parce que malheureusement nous sommes souvent oublieux. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est aussi une promesse. Jésus a dit de la coupe, c'est la nouvelle alliance. Une alliance est une nouvelle promesse solennelle qui ne peut être rompue. Jésus a scellé cette alliance dans son sang. Vous voyez, l'Ancien Testament nous parle de l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament nous parle de la Nouvelle Alliance, voyez. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. Jésus était sans péché. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes qui mène à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voyez, en effet, selon la loi, presque tout a été purifié avec le sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Voyez, donc c'est la notion de la nouvelle alliance en son sang. C'est aussi un repas de communion. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec la communion avec le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion avec le corps de Christ ?» Voyez, la Sainte-Cène est un partage, un repas de famille. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons à un seul pain. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Si nous avons un péché conscient que nous refusons d'abandonner, il ne faut pas que nous prenions le pain et le vin. Voyez, la Bible nous dit, d'abord réconcilie-toi, va voir ton frère, libère le pardon. Voyez, cela est vrai en particulier si nous avons péché contre un frère. Donc, règle le pardon et à chaque fois que nous dressons cette table du Seigneur, il y a une possibilité, voyez, de se réconcilier avec Dieu et de se réconcilier avec ses frères et sœurs, voyez. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur de manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ne venons pas d'une manière légère. Ne venons pas, je dirais, d'une manière religieuse, mais c'est un temps où nous nous examinons nous-mêmes en disant, Seigneur, bien je te demande pardon pour telle attitude dans la semaine, telle dureté, telle parole, tel mensonge, tel orgueil, voyez. Repentons-nous, confessons nos péchés, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste qui nous purifie, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Vous voyez, c'est un moment de consécration, d'engagement, de repentance, voyez, et aussi nous nous examinons nous-mêmes et nos relations avec nos frères et sœurs, c'est un moment où nous pouvons aller les uns vers les autres, voyez. C'est un temps d'espérance, voyez. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, ceci jusqu'à son retour. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Ce repas doit aussi nous le rappeler. Le repas du Seigneur est donc l'occasion de renouveler l'alliance qu'il a faite avec nous et les participants y affirment leur engagement envers le Seigneur et ses frères. Nous déclarons vouloir les aimer selon le commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau ? Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est une espérance, voyez ? C'est un repas de renouveler l'alliance avec Dieu et les uns avec les autres. Cela signifie chercher le meilleur pour eux, prendre soin, donner notre temps, voyez, à une vie de service. Lorsque nous sommes dans l'immaturité, on désire simplement être béni, guéri. Lorsque nous sommes dans la maturité, nous pensons aux autres, servir les autres, donner notre vie pour les autres. C'est de lui que le corps tout entier tire son accroissement pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties, voyez ? Donc il est très important aussi de grandir personnellement dans la foi. Voyez, la qualité de notre communion avec les autres, eh bien, c'est que nous pouvons apporter, recevoir lors de nos rencontres, dépend de notre communion personnelle avec Dieu chaque jour. Voyez, le temps de Sainte-Cène, mais aussi il est très important de vivre dans le corps, eh bien, de grandir personnellement dans la foi. Et chacun est responsable, eh bien, de payer le prix, voyez, pour être disciple, hein, de payer le prix pour être disciple. Nous sommes des pierres vivantes et nous devons nous approcher de cette pierre angulaire, que vous, le texte dans 1 Pierre chapitre 2, nous devons nous aligner eh bien, avec Jésus-Christ au travers de la repentance, au travers de la foi, de l'obéissance. Voyez, nous nous alignons notre vie, alignons nos styles de vie, nos pensées, nos émotions avec le Christ. Voyez, pour entrer dans la maturité, parce que l'Église n'est pas une nurserie où nous accueillons des bébés spirituels, ces nouvelles personnes, mais nous désirons grandir et que vous puissiez être, voyez, des pères et des mères dans la foi. La Bible nous dit ceci, eh bien, que nous devons veiller à la prière. Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière, eh bien, dans le lieu secret, ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. » Vous voyez ? Acte 17, verset 11. « Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'entraînement. » Vous voyez ? Il est très important que nous puissions eh bien, agir, voyez ? Agir, aimer la parole de Dieu avec empressement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on disait était juste. Voyez, soit que vous écoutez des enseignements sur Internet, voyez, ou à l'Église, il est très important de vérifier ce qu'on vous dit correspond à la parole de Dieu. Voyez, nous aurons des relations saines avec les autres dans la mesure où nous passerons du temps avec le Seigneur. Moi, je vous invite à, vous savez, lorsque nous avons une communion avec Dieu, alors nous allons avoir une communion saine avec les autres, voyez. Lorsque nous sommes remplis de la vie de Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, à tout moment, voyez. Voyez, à tout moment, chaque jour, constamment, comment ? En, par des hymnes, en chantant à Dieu, voyez, là, au travers de la reconnaissance, au travers du chant, au travers de la louange, de l'adoration, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, de la communion fraternelle, vous allez croître, voyez. Donc ne négligez pas toutes ces choses parce que vous allez devenir, voyez, des chrétiens faibles, vous allez vous ennuyer, vous allez tourner en rond, être errant et vous allez devenir aveugles. Mais je vous encourage à être réellement des disciples de Jésus, à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'un disciple, eh bien, suit Jésus dans la foi et dans l'obéissance. La Bible nous dit que nous devons accomplir la volonté de Dieu, non pas ma volonté. Lorsque nous disons que Christ est Seigneur, il y a plusieurs qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ils ne font pas ce que font ce que dit la parole de Dieu, voyez, dans leur vie de famille et au travail. Voyez, la marque du disciple se voit au travail et dans la famille, non pas à l'église où nous pouvons porter des masques religieux, mais la Bible nous dit de nous abstenir de tout mal sous toutes ses formes. Vous voyez ? Donc, passez du temps avec Dieu et je peux vous assurer que vous allez pouvoir, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, avoir des paroles d'en haut, des paroles d'encouragement, d'édification. Vous voyez, vous allez pouvoir les exhorter, vous allez pouvoir, vous voyez, recevoir des paroles pour eux, vous voyez, les encourager, afin que, étant votre contact, il soit édifié. Vous voyez, ne abstenez-vous de personnes qui mettent le désordre, des personnes qui mettent la division, des personnes qui sont médisantes et crises. Et voyez, éloignez-vous de ces personnes. Veillez à vos relations. Ayez des relations avec des personnes de foi, avec des personnes eh bien, qui vous tirent de l'avant et qui vous amènent dans une plus grande maturité. Voyez, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il nous est dit aussi que votre conduite ne soit pas guidée par le matérialisme, par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, non, je ne t'abandonnerai point. Attention, par rapport, je dirais, à la notion, eh bien, je dirais, du matérialisme. On veut toujours rajouter, vous voyez, la Bible nous dit, contentez-vous, hein, le contentement. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Attention à la convoitise, vous voyez, à toutes ces choses qui peuvent nous tenter. Quelle attitude devons-nous avoir en ce qui concerne les dettes ? Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Vous voyez, attention à toutes sortes de crédits, voilà, qui sont une spirale qui vous amène à être, bien sûr, redevable et être lié, souvent pour des années. Il faut ici mentionner le piège que peuvent être les crédits que beaucoup de gens accumulent sans réfléchir et qui sont un véritable esclavage moderne aiguisé par la soif d'avoir toujours plus. Vous voyez, quelles sont nos responsabilités à l'égard de l'État ? La Bible nous dit dans Romains 13 que tout homme doit se soumettre aux autorités supérieures, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et de celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Vous voyez ? C'est pourquoi les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont aussi au service de Dieu dans l'exercice de nos fonctions. Et je sais qu'il y a énormément d'injustices. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais attention à être au clair et en règle par rapport aux finances. Vous voyez, rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui, eh bien, ils reviennent, voyez. Je vous recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu, eh bien, des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie, eh bien, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Vous voyez, notre vie privée, familiale, professionnelle, sociale, le Seigneur nous demande d'être de témoins. Vous voyez, non seulement en parole, mais en actes. Vous savez, souvent, eh bien, nos actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Donc, nous devons être le sel et la lumière du monde. La Bible nous dit que nous devons être, vous voyez, nous sommes la lettre de Christ. Et quelqu'un a dit ceci, vous savez, les gens autour de nous ne liront sûrement pas l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc et de Jean, mais ils vont lire l'évangile selon vous, l'évangile que vous transmettrez chacun à vos enfants, à votre épouse, à votre famille, à vos collègues de travail, vous voyez, dans la vie sociale. Donc il est très important d'être, vous voyez, des témoins en parole et des témoins en action et démontrer le caractère de Jésus. Vous voyez, la première personne que les gens vont rencontrer du royaume de Dieu, c'est vous. Alors soyons eh bien, des hommes et des femmes qui reflètent Jésus dans sa grâce et dans son amour.